Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Communautaire. Aujourd'hui, le Tour de France des initiatives éco-responsables nous amène à Clermont-Ferrand et j'ai la chance d'accueillir Maxime Baldassin, fondateur de You Can Recycle. Salut Maxime, tu vas bien ?
Salut Pauline, bonjour, ça va et toi ?
Ouais, très bien. Je suis très très heureuse de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de mode éco-responsable, bien sûr, de reconversion professionnelle, de conviction et d'engagement, de Made in France, d'impact carbone et d'écologie. Mais je n'en dis pas plus et je vais te demander de te présenter.
Ok, ça roule. Alors moi, c'est Maxime, du coup, je suis le cofondateur de You Can. You Can, c'est une marque de vêtements qu'on a fondée à deux, donc avec Anaïs, on est les deux fondateurs. Le principe est de faire des vêtements qui sont recyclés et entièrement fabriqués en France, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matières qui sont soit vont être jetées, donc ça va être par exemple de la chute de production, ça va être de la bouteille plastique, qui vont être recyclées pour faire un nouveau fil, ou alors ça va être aussi des produits qu'on va mettre par exemple dans les bornes Emmaüs, qui vont être triés, recyclés pour refaire une nouvelle fibre. Et tout ça, on est entièrement fabriqué en France, ce qui nous fait qu'on a un produit qui a un impact sur l'environnement beaucoup plus faible, et ça c'était ce qu'on voulait avec Anaïs, c'était faire une marque, mais pas une marque comme tout le monde, comme tout ce qu'on peut retrouver, c'est faire une marque qui soit le plus éco possible en fabriquant nos vêtements en France. On est donc à Clermont-Ferrand, et donc tous les ateliers avec qui on travaille sont dans un rayon de 200 km autour de Clermont, pour justement encore plus limiter l'impact environnemental de nos produits.
Et alors, dans ta présentation, il y a quand même un élément que tu n'as pas mentionné, c'est que tu n'es pas du tout issu du milieu de la mode ou de la production.
Absolument pas. J'ai été électricien, dans un gros groupe d'électricité pendant 7 ans. Et Anaïs, elle est métrologue, donc on n'est absolument pas du tout issu du métier textile ou de la mode. On voulait juste changer les choses et faire quelque chose qui nous ressemble. Et voilà quoi.
Et est-ce que tu te souviens de ce jour où vous avez eu l'idée tous les deux, parce que je crois que vous êtes en couple dans la vie, de ce jour où vous avez eu l'idée de créer une marque de mode, parce que du coup c'est quand même un métier qui est assez éloigné de vos formations initiales.
Oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Le jour où on s'est dit voilà, on fait ça, alors déjà ça, c'est des idées qui trottent en tête de vouloir faire autre chose depuis un petit moment. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire quoi. Et on va dire qu'on avait plusieurs options et on s'est dit que le textile était quelque chose qui existe et qu'en tout cas qui existait dans le bassin clermontois, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de le faire. Après on va dire que l'idée est arrivée, mais on a mis bien un an avant de se dire ok, c'est bon, on va faire ça quoi, parce que c'est quand même hyper compliqué vu qu'on n'est pas du tout de ce métier là
Oui, complètement. Et alors, comment ça a démarré ? C'est-à-dire que vous avez commencé à travailler un petit peu en parallèle sur le sujet, ou vous avez décidé de changer de vie, de démissionner de vos emplois respectifs et de démarrer ? Et comment on démarre ? Comment, c'est quoi le jour 1 du projet ? Comment on en arrive à fabriquer le premier t-shirt, le premier sweat ? Quelles sont les différentes étapes ? Comment on en arrive là ?
On a beaucoup bossé en parallèle au début. Parce que faut bien qu'on assure, et puis il y a quand même il y a un delta entre l'idée et la première création qui est presque un peu plus d'un an, donc faut bien vivre pendant un an quand même, donc du coup on a fait ça en parallèle. Alors au début c'est compliqué, c'est aller voir les usines, essayer de les contacter et tout ça pour voir un peu ce qui est possible de faire. C'est un milieu qui est plutôt compliqué quand on n'est pas dedans. On n'ouvre pas les portes facilement, j'ai envie de dire. Donc, c'était vraiment ça la difficulté. Voilà, c'était créer une entreprise, c'est facile. Et avoir l'idée, c'est facile. La mettre en application, c'est beaucoup plus compliqué, surtout en France, je pense. Et donc, ça a été surtout de pousser les usines et leur dire, voilà, nous, on est deux Clermontois, on voudrait faire un truc bien. Est-ce que ça vous dit ? Et ça, on a mis longtemps. Et donc, ça, c'était la première étape. Et après, la deuxième étape, c'est une fois qu'on avait tout ça, c'était comment ça va s'appeler. Et là c'était plutôt dur. On a mis je pense bien 3 mois à trouver le nom et encore un mois à voir le logo. parce que faut pas trop se louper, puis on avait plein de noms un peu débiles au début qui ressemblaient à rien, et du coup on s'est dit non, faut pas qu'on fasse ça, ça va pas du tout. Donc ça c'était vraiment les premières étapes, et après c'est l'étape de création complète avec qu'est-ce que nous on aime dans les vêtements, qu'est-ce qu'on veut reproduire, comment on va faire pour le reproduire au mieux, toujours avec l'esprit qu'on a dit au début de fabriquer le plus possible en France. Donc ça bloque quand même des choses, hein. Il y a des choses qui ne sont pas forcément faites en France, mais qu'on retrouve aussi sur des t-shirts lambda. Donc nous, ça, on ne voulait pas. Donc voilà, il y a tout plein d'étapes comme ça, quoi.
Et alors justement, tu disais tout à l'heure que vous produisez en France, mais aujourd'hui entre le made in France, le conçu en France, fabriqué en France, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Il y a aussi la certification origine, pardon, France garantie, qui assure aux consommateurs la traçabilité du produit. Mais je crois que le made in France va beaucoup plus loin que simplement la traçabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour nous aider à nous y retrouver?
Oui, alors en fait, il y a plusieurs labels qui existent. L'Origine France Garantie, c'est quelque chose qui va certifier que, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais je crois que c'est plus de 60% du produit et de coût de revient du produit est fait en France. Là, après, il y a le Made in France, où on est sur quelque chose qui est fabriqué en France. Et après, il y a un peu les marques aussi qui jouent un rôle de transparence complète. C'est-à-dire que nous, par exemple, chez UCAN, on n'a pas de label ni Origine France Garantie parce que c'est des labels qui coûtent extrêmement cher à avoir. Donc, on n'a pas encore fait cette démarche, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire parce que c'est un des plus gros labels de certification française en fait. Parce que le fabriquer en France, c'est vraiment l'étape de fabrication. Ça veut dire que demain, vous pouvez acheter un tissu chinois, venir le découper en France, l'assembler et vous avez un t-shirt qui est fabriqué en France. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on est vraiment sur un tissu français, coloré en France, tissé en France, assemblé en France. On a plus de 90% des étapes qui sont faites en France pour le plus mauvais de nos produits. Tout le reste, on est à 100%. Donc voilà. Après, je pense que c'est les marques aussi qui doivent jouer un rôle de transparence avec les fournisseurs, avec l'entreprise avec qui on travaille, pour que le consommateur n'ait pas de questions aussi à se poser.
C'est vrai qu'il y a des marques qui jouent un petit peu là-dessus, qui cousent simplement une étiquette bleu, blanc, rouge, alors que c'est un produit qui est made in China, mais parce que justement on joue sur cette subtilité de juste l'origine France ou juste une partie d'assemblage. Et le consommateur, effectivement, il est un petit peu perdu et parfois aussi induit en erreur. Voilà, sur le dos des marques en fait.
C'est ça.
Et alors, produire en France, parce que du coup, tu as quand même fait un choix, vous avez énormément, vous véhiculez énormément d'engagement. On le voit sur votre site, vous avez de très belles promesses. Qu'est-ce que ça implique en termes de limites, de compromis? J'imagine qu'on ne peut pas tout faire pour produire localement.
Eh ben oui, c'est sûr que ça va limiter en produits. C'est-à-dire que tous les produits, localement, on ne peut pas tout faire non plus. Donc, ça, forcément, voilà, c'est des limites qu'on a et qu'on négocie des fois avec certains ateliers pour qu'ils se lancent sur de nouveaux produits que nous, on aimerait sortir et voilà, faire un peu quelque chose ensemble. Donc, forcément, ça a des limites. Mais je pense que c'est en faisant ça qu'on arrive aussi à faire grandir le territoire et progresser tout le monde. Donc, ça, c'est important, quoi.
Et est-ce qu'on peut produire avec tout type de tissus, de matériaux, ou tout type de formes, de types de vêtements, ou au contraire, il y en a qui utilisent par exemple plus des élastanes, mais qui ne sont pas des matières qui sont peut-être moins naturelles? Est-ce que du coup, on est vraiment limité dans le choix? C'est plus facile d'utiliser le coton qu'un autre matériau? Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on veut lancer justement une marque Made in France et durable?
Eh ben, alors c'est toujours pareil, c'est plus on évite les matières, on va dire, neuves, plus on est sur un produit qui a un impact environnemental plus faible. Parce que tout ce qui est élastane, tout ce qui est polyester, si on prend on va dire, même si c'est biosourcé, hein, parce que ça existe, mais si on prend des choses neuves, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt polluant. Parce qu'après, c'est toujours pareil, faut rentrer dans le concept d'analyse de cycle de vie du produit pour être bien dans son impact environnemental du produit. Et donc c'est ça qu'il faut se dire quand on crée une marque et qu'on veut être une marque responsable. C'est ça aussi, c'est tous les produits que je vais mettre dans mon t-shirt. C'est-à-dire que je fasse un 100% coton, un 50-50 avec du polyester ou rajouter de l'élastane. bah derrière, c'est l'ensemble de tout ça qu'on doit analyser en empreinte carbone. Mais si, mis bout à bout, on arrive à avoir une empreinte carbone plus faible, pourquoi pas? Mais globalement, on n'est pas hyper bon en polyester et en élastane neuf, quoi.
Du coup, vous utilisez quoi? Du coton?
Nous, on utilise voilà, alors, du coton et du polyester. On est sur du polyester recyclé à partir de bouteilles plastiques. Ce qui fait que du coup, voilà, et on est sur du recyclage européen. Donc on est vraiment sur une empreinte très faible.
Et est-ce que vous avez mesuré justement cet impact de production de vos t-shirts?
Alors,
sur le monde, sur l'impact carbone?
Exact. Alors, ça, c'est des choses qui sont mesurées, alors, pas que par nous, mais surtout par nos fournisseurs aussi. Et tu vois, je vais prendre l'exemple, par exemple, des bonnets. Alors, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus simple et je trouve qu'il est très parlant. Tu vois, on est sur nos bonnets, on est sur un produit qui est entièrement recyclé, comme pour les t-shirts, mais on est sur un produit qui est garanti 98% moins impactant sur l'environnement. Donc, ça va être dans la gestion de l'eau, dans la gestion de l'énergie et dans la gestion des transports. Et tout ça, ça rentre en jeu. Et c'est ça qui est important dans le produit qu'on utilise. C'est-à-dire que le fait qu'on travaille sur un produit qui est filé en France, qui est recyclé en France et qui est assemblé en France, on a beaucoup plus de facilité à contrôler tout ça. Et c'est ça qui est important aussi. Dès que tu pars un peu, voilà, comme des marques qui font fabriquer en Asie ou quoi que ce soit, on sait que le contrôle est beaucoup plus dur. Donc même sur certaines marques qui vont parler de tissu environnemental qui est bien, etc., bah, c'est toujours un peu compliqué dès qu'on est en Asie. Donc nous, on sait qu'on est sur un produit qui est 90% moins impactant sur l'environnement. Ça, c'est fait par des organismes extérieurs. C'est des études sur 3-4 ans. Hein. Donc ça dure vraiment très longtemps pour avoir ce genre de chiffre. Donc en termes d'impact sur l'environnement, par exemple, là, c'est les bonnets. Et donc pour les t-shirts, c'est encore différent. On va surtout parler de consommation d'eau pour les t-shirts, parce que c'est quelque chose qui est quand même important. Ça utilise énormément d'eau douce en plus. Donc c'est quand même une richesse qu'on a sur Terre qu'il faut qu'on garde. En termes d'impact sur l'eau, un t-shirt conventionnel en coton, on va être autour des 2500 litres d'eau. Un t-shirt recyclé comme nous on fait, dans toute sa vie, on va être autour de 50 litres d'eau. Donc là, tout de suite, on est sur un impact environnemental du produit qui est beaucoup, beaucoup plus faible, et surtout d'eau douce et potable pour la plupart. Donc c'est quand même hyper important de passer sur peut-être du recyclé qui a exactement la même qualité qu'une fibre neuve. Et ça, voilà, c'est top, quoi.
C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours en tête ces chiffres-là, parce que quand on parle de vêtements, on pense peut-être plus matériaux, tissus, fibres, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours en tête le nombre de litres d'eau qu'il faut pour fabriquer une pièce, et également l'impact que ça peut avoir en termes d'écologie. J'ai lu récemment qu'il fallait, pour produire un t-shirt, enfin que souvent le t-shirt qui arrive dans les magasins, ils ont parcouru plus de 40 000 km, soit plus que le tour de la Terre.
Oui.
Donc, ces chiffres sont accablants.
C'est ça, c'est des chiffres qui sont énormes, et en fait, c'est tout. On va dire le consommateur final achète juste un t-shirt. Par contre, derrière, on ne se rend pas compte de toute la consommation qu'on a engendrée par notre achat. Et c'est ça où il faut qu'on aiguille un peu le consommateur et les gens à dire, voilà, derrière vos achats, vous avez un vrai pouvoir de faire changer les choses, quoi. C'est ça qui est important.
Oui, complètement. Et alors, comment on justifie un prix de vente? Il me semble que dans la démarche que vous avez avec Anaïs, vous êtes parti sur la notion de prix juste. Quel est le prix qui serait bon de payer? Et ensuite, vous êtes parti donc, de ce prix final pour redécortiquer les prix intermédiaires.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un produit. Alors, le prix juste, alors c'est toujours pareil. Le Made in France est quand même plus cher que du Made in China. Ça, c'est comme ça, mais on n'a pas les mêmes conditions de vie. Donc forcément, c'est plus cher. Mais oui, on est parti en fait de l'étude du produit, c'est-à-dire que si on veut faire un nouveau produit, je prends l'exemple d'une chemise qu'on a voulu sortir il n'y a pas longtemps, où on a fait tout le prototype de la chemise et à la fin on arrive à un prix que nous personnellement on serait pas prêt à mettre. Et ben pour nous c'est ça le prix juste, c'est-à-dire combien je suis prêt à mettre moi perso pour ce genre de produit en sachant toute la démarche qu'il y a derrière. Et donc si on arrive à des prix trop chers, soit on ne produit pas le produit, parce qu'on n'a pas encore trouvé les solutions d'optimiser les prix et les coûts. Soit on va décortiquer coût par coût et comment faire en sorte d'éliminer des coûts pour justement bah, qu'on arrive au prix le plus juste possible pour le consommateur, qu'il n'y ait pas de surcoût et des choses comme ça. Et c'est vraiment le principe de Youcan, c'est proposer vraiment au prix juste tous les produits sans surcoût pour arriver à des prix qui sont quand même, je pense, plutôt moyen-bas dans notre gamme. Parce que voilà, entre les t-shirts, on va être entre 30 et 35 euros. Les suites sont à 70. On essaye d'être vraiment le prix le plus bas possible, tout en gardant bah, bien sûr les marges, parce qu'il faut bien qu'on gagne de l'argent aussi, quoi.
Et depuis que vous avez démarré le projet, tu sens qu'il y a déjà plus de facilité pour produire, que le marché s'est un petit peu ouvert sur ces productions locales, que vous avez plus de facilité pour sourcer les produits, pour trouver des usines qui fabriquent selon votre cahier des charges?
On a plus de facilité. Ça, c'est sûr. Après, c'est quand même toujours difficile, quand on est une marque comme nous, parce qu'on n'est pas une grosse marque, de prototyper des choses. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris la direction, là, depuis le mois de septembre, de créer un tout petit atelier en interne, voilà, avec en embaucher des gens pour fabriquer des produits qu'on n'arrive pas à trouver encore sur le marché français, en tout cas, ou alors sur des quantités qui sont monstrueuses. Et donc, voilà, c'est quand même encore difficile. On arrive à en faire plus en plus, mais on a besoin voilà, de faire ce petit atelier un peu tampon qui va nous permettre de pouvoir faire des volumes intéressants pour nous en créant bien sûr plus de choix dans notre gamme. C'est aussi important, voilà, faire du t-shirt et du sweat, c'est bien, mais si on peut faire d'autres produits, c'est quand même plutôt sympa, quoi.
Et alors justement, tu touches un point qui est important, qui m'intéresse particulièrement, qui concerne justement le business model et la rentabilité. Alors j'ai beaucoup de questions à ce sujet.
Vas-y.
C'est un, comment on peut être rentable quand on veut produire durablement, parce que du coup il y a beaucoup plus de contraintes et d'obstacles, et donc du coup on ne peut pas non plus se permettre d'avoir des prix de vente qui sont exorbitants. Et comment on peut élargir la gamme, puisque... contrairement à des marques qui sont quand même beaucoup plus connues, des grands groupes, y en a, je sais, qui lancent plus de 24 collections par an, ce qui est complètement aberrant. Donc comment finalement on peut avoir une gamme qui est large, conquérir davantage de consommateurs, sachant qu'on veut produire durablement, donc forcément pas avoir des milliers et milliers de pièces par an. Comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Eh bien, ça va. Alors, comment on se positionne de plusieurs manières, j'ai envie de dire. Déjà, on va beaucoup interagir avec nos réseaux sociaux pour savoir quels sont les produits que les gens aimeraient avoir et aimeraient voir chez Youcan. Donc après, à partir de ça, on va travailler sur des produits. Et surtout, en fait, ce qu'on fait et qu'on fait depuis le début, c'est qu'on ne fait pas de collection. C'est-à-dire qu'on produit quand on a besoin de produire, que ce soit des t-shirts ou des sweats, mais on ne fonctionne pas en collection. On ne se dit pas... attention, ma deadline de ma collection hiver, elle est là, donc il faut que je brade tout à mort pour pouvoir reproduire la même chose ou différemment pour cet été. On n'a vraiment pas de date comme ça, donc ce qui fait qu'on est forcément un peu plus durable et puis surtout on évite de faire des trucs qui sont complètement farfelus, que les gens vont porter 4 fois et qui ne portent pas non plus toute l'année, quoi.
Donc plutôt des bons basiques, des productions presque à la demande en fonction des besoins identifiés par votre communauté.
Exactement, c'est-à-dire que nous, on va les aiguiller sur les produits qu'on aimerait faire. Alors bien sûr, on propose toujours des produits qu'on a déjà commencé à penser et qu'on a peut-être trouvé des usines pour les faire, parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, voilà, c'est ça, on va faire un choix entre 3-4 produits et ce qui fait qu'on en sort un nouveau par an, un ou deux nouveaux par an, et voilà, après rester toujours sur des basiques, de t-shirts, de sweats, mais augmenter la gamme. Par exemple, on va sortir des sous-vêtements, on avait eu beaucoup de demandes dans les sous-vêtements, donc on a fait une campagne de crowdfunding cet été pour ces sous-vêtements-là qui vont sortir bientôt, j'espère en décembre.
Je crois que la production est lancée, non?
La production est lancée, ouais, on reçoit les têtes de série cette semaine, et on finalise la prod la semaine prochaine. Donc normalement, c'est
super.
Bon. Donc ça avance bien. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est faire interagir les gens et leur demander ce qu'eux, ils aimeraient voir chez Youcan. Et comme ça, déjà, on évite d'avoir des collections qui ne sont pas vendables. Parce que là, il y a des entreprises qui font des collections qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et du coup, après, derrière, c'est bradé à mort. Et voilà, c'est pas le concept, quoi.
Et alors, qui sont les consommateurs? Ce sont des personnes qui sont sensibles à toutes ces démarches environnementales. Est-ce que vous arrivez à conquérir de nouveaux clients? Quels sont les arguments auxquels ils sont sensibles?
Eh ben, alors voilà, ouais, on arrive toujours à concourir de nos clients, heureusement. Mais on va dire qu'on a plusieurs profils de clients, c'est-à-dire que ça va être des personnes qui sont soit en transition, c'est-à-dire que les personnes que j'appelle en transition, c'est des personnes qui consommaient de la grande distribution, on va dire en général, et qui maintenant se disent, bon, effectivement, ça craint un peu ce que j'achète, il faudrait que je consomme un peu mieux. On a donc ce genre de clients, et on a aussi des clients qui sont vraiment écolo dans l'âme, qui consomment depuis des années ce genre de truc, ce genre de produit, et du coup là on est sur des clients qui eux veulent avoir de la transparence, avoir savoir comment c'est fait et tout ça, des labels, etc. Donc on est vraiment sur deux gros blocs de clientèle. Voilà.
Et comment vous avez démarré? Vous avez démarré local en vendant sur les circuits de distribution aux alentours de Clermont-Ferrand, ou vous de base en vendant, parce que je crois que vous vendez exclusivement sur Internet, si je ne me trompe
Ouais.
pas, vous vendez partout en France et ça a démarré un peu de manière disparate.
Alors, on a quand même un gros, même encore, un gros bassin auvergnat. Donc, oui, on a quand même un gros bassin auvergnat. Ça commence toujours proche de chez soi pour après grandir. Donc, on travaille, oui, beaucoup sur Internet. On a aussi des revendeurs. On a une dizaine de revendeurs en toute la France maintenant. Donc, eux, ça nous permet de toucher une population qu'on n'aurait pas touchée sur Internet. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, on travaille 80% avec notre site e-commerce, ce qui nous permet de toucher vraiment toute la France et même un petit peu l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on a 3% de nos ventes qui sont faites entre la Belgique, Luxembourg et la Suisse, quoi.
D'accord. Alors justement, tu mets le point sur un point important qui est celui de l'expédition. Je crois que vous avez fait le choix d'une livraison la plus neutre possible en carbone, en faisant le choix avec, il me semble, avec La Poste d'ailleurs. Tu vas
Exactement.
peut-être pouvoir nous en parler parce qu'il me semble qu'ils utilisent des voitures électriques ou des vélos pour pouvoir livrer. Comment en fait on peut s'engager sur une livraison la plus neutre possible, mais aussi envisager de livrer en Europe, en dehors de la France?
Alors oui, voilà, ça c'est une grosse question qu'on se pose aussi à chaque fois, nous, en disant est-ce que on continue à s'ouvrir ou pas? Parce que après, d'ailleurs, là, effectivement, environnementalement parlant, on va peut-être pas être dans le truc. Mais le fait d'utiliser ben, un transporteur comme La Poste qui s'engage à faire des livraisons neutres en carbone, on se dit que globalement, on arrive à respecter un peu notre engagement aussi. Après, voilà, on évite, on fait pas de livraison, par exemple, aux États-Unis. Voilà, ça c'est hors de question, parce que là, forcément, on va avoir tout l'empreinte environnementale qui sera tuée par le transport de l'avion ou du bateau, ça dépend des raisons. Mais non, ouais, on se limite à la France et tout ce qui est livrable en fait par la Poste, qui est bah, voilà, Belgique, Luxembourg, Suisse, des pays qui sont frontaliers, quoi. Exprès pour justement limiter bah, l'empreinte carbone de la livraison. Et en plus, on propose de plus en plus des colis réutilisables. C'est-à-dire que on a l'empreinte du carton et des gens qui préfèrent aussi le carton, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais on propose voilà, de plus en plus des colis qui s'appellent boomerang, qui sont fabriqués en fait à partir de badges publicitaires qui sont jetés. Et donc ça, c'est des colis qui sont réutilisables plus d'une centaine de fois. Donc pareil, ça rentre dans la démarche environnementale de YouCan, quoi.
Tout à fait. Et du coup, les produits en fin de vie ne sont pas des produits que vous récupérez pour les réinjecter dans une ligne de production?
Alors les produits en fin de vie YouCan ne sont pas réinjectés par nous parce qu'on n'a pas les épaules pour le faire. C'est quelque chose qu'on adorerait faire sur certains produits, mais parce qu'il y a des produits qui sont plus faciles à d'autres à mettre en place. C'est quelque chose qu'on adorerait faire, mais c'est très compliqué à mettre en place. Et donc faut laisser ça aux gens qui savent faire comme Emmaüs et tout ça, ou notre fournisseur, nous, lui, se sert directement avec eux. Donc c'est quand même plus simple après. Ouais, si chaque année vous achetez un bonnet YouCan et que vous chaque année à la fin de la saison vous le mettez dans une borne Emmaüs, c'est possible que vous retrouviez votre fil un jour.
Et alors, les emballages écologiques, l'impact carbone, c'est top, mais votre démarche, elle va vraiment très très loin. C'est vraiment une démarche à 360 degrés, puisqu'il y a aussi une démarche éthique, puisque je crois que pour un article acheté, vous plantez un arbre.
Exactement, oui. On est engagé avec. C'est vrai que j'oublie chaque fois de le dire, c'est important. Oui, on est engagé en fait avec une association où chaque année on reverse en fait une partie de nos bénéfices qui va représenter en fait la plantation d'un arbre pour chaque produit. Donc chaque personne qui achète un produit chez nous, il y a de l'argent qui est reversé pour la plantation d'un arbre.
Tu saurais dire aujourd'hui combien vous avez planté d'arbres?
L'année dernière, on a planté 2000, 2500, je crois, 2500 arbres l'année
Waouh!
dernière.
Ils sont plantés où?
Alors en fait, c'est planté, donc c'est pour ça qu'on passe avec une. Au début, on voulait travailler localement, mais voilà, nous, là où on habite, il n'y a pas forcément besoin de densifier les forêts, parce qu'elles sont déjà très belles. Donc c'est pour ça qu'on passe par une association qui, elle, va planter là où il y en a besoin. On sait dire que nous, les 2500 arbres l'année dernière, donc on a eu une carte avec où les plantations ont été faites. Il y en a eu à Madagascar, il y en a eu en Amazonie, parce qu'avec les forêts qui ont brûlé. Il y en a eu en Espagne aussi, avec les forêts qui ont brûlé l'été dernier. Voilà, où derrière, bah, ils s'engagent, eux, à aller là où il y en a besoin, en fait. Donc
D'accord,
c'est
c'est
quand
top.
même plus sympa.
Super. Et la prochaine étape pour Yukan, qu'est-ce que ça sera?
Alors la prochaine étape, ouais, c'est ce que je disais, on est en pleine démarche pour faire l'atelier de confection. Donc ça, c'est la prochaine étape vraiment qu'on a tout de suite actuellement chez Yukan pour bah, toujours limiter les coûts, limiter l'empreinte carbone des produits en tout cas qu'on n'arrive pas à trouver par chez nous. Et ça, c'est vraiment une démarche à laquelle ça me tient à cœur. Et voilà, c'est Yukan à 100% quoi.
Et toujours en B2C?
Toujours en B2C et de proposer de plus en plus en fait des produits qu'on appelle clés en main. C'est une gamme clé en main qu'on est en train de sortir. C'est-à-dire que l'objectif c'est de travailler avec les entreprises parce que voilà, on consomme nous des t-shirts, mais des entreprises qui en consomment énormément chaque année en vêtements images de marque. Et donc c'est ces gens-là qu'on veut embarquer dans le wagon de la démarche écologique et du recyclage en leur proposant voilà du clé en main, de s'habiller avec des vêtements qui sont recyclés, qui sont fabriqués en France. Parce que il représente un marché énorme de produits qui sont jetés chaque année, qui consomment énormément d'énergie. Donc, si les entreprises ne passent pas au recyclé et au Made in France, je suis pas sûr qu'on arrive à faire changer les choses comme on voudrait, quoi. Le consommateur lambda peut faire changer les choses parce que la façon dont il consomme, et ben forcément, si on consomme tous du recyclé, ben on va forcément plus en plus de se positionner dessus. Mais une entreprise comme on a par chez nous, par exemple Michelin, qui fait peut-être je sais pas moi, 500 000 t-shirts par an. Si ces entreprises-là ne s'engagent pas dans la démarche comme la nôtre ou une démarche environnementale quelconque, et ben ça va représenter un marché tellement gros pour les personnes qui polluent qu'au final on n'arrivera pas à changer vraiment les choses, quoi.
Mais t'as raison, parce que l'industrie, en termes de pollution, l'industrie textile, vraiment, en termes de pollution, c'est énorme. C'est plus entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles qui sont jetés chaque année en France. Et on estime même que 85% des vêtements finissent, à la poubelle.
Oui, mais il y en a énormément qui sont jetés. Il y a même des vêtements, comme certaines grosses entreprises, qui ne sont pas portés, qui sont jetés dû aux collections chaque année, quoi. Donc effectivement, le recyclé, ça représente une matière première de dingue qui est disponible sur tout le territoire français, sans aller dans la culture du coton asiatique ou même grec. Donc c'est quand même intéressant, quoi.
Ouais, donc déjà récupérer ce qui est sur place avant d'envisager de produire à nouveau.
Exactement.
Super. Quelles ont été les principales difficultés dans le lancement de Yukan?
Les difficultés, en vrai, on n'a pas trop eu de difficultés. On a eu des gens qui nous ont ouvert les portes assez facilement. Ça a été long, mais ça n'a pas été hyper difficile. Et donc, ça, c'était plutôt cool. Après, la difficulté, c'est de se réinventer, de surtout toujours être dans le guidon de notre démarche à nous. Et ça, c'est des fois, ça peut être dur. On voit des concurrents, des choses comme ça qui passent. Mais voilà, c'est peut-être ça le plus dur.
Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux consommateurs de produits classiques?
Ben, venez avec nous, vous verrez, c'est sympa. Non, mais au consommateur classique, alors là, nous, on n'est pas donner des leçons à quelqu'un qui consomme mal. Moi, tout ce que je dis, c'est quand je vois quelqu'un qui consommait pas avant du Made in France et qui achète un t-shirt chez nous, un sweat chez nous, ou un bonnet chez nous, c'est toujours un produit que la fast fashion n'aura pas vendu. Et déjà, je trouve que c'est une petite victoire, quoi.
Mmh. Et alors, quels sont les gestes, on va dire, green que vous mettez en place au quotidien? Est-ce que du coup, cette idée de YouCan, elle était à titre professionnel pour créer quelque chose qui a de l'impact et qui se ressent également à titre personnel dans votre vie de tous les jours?
Bien sûr, le départ, c'est même ça. C'est nous, dans notre vie, on a changé. Alors, on a toujours été un peu comme ça, mais voilà, c'est, dans notre vie, on est dans la consommation raisonnée, on est vachement là-dedans. Nous, déjà, on n'achetait pas beaucoup de fringues ni quoi que ce soit. Donc voilà, la démarche, elle commence d'abord par là, avant de la faire dans l'entreprise.
Voilà. Et est-ce que tu aurais quelques petits gestes green du quotidien à nous partager?
Gestes green du quotidien, on les connaît tous. C'est consommer moins d'eau, éteindre le robinet. Déjà, si on commence tous à faire ça, ça sera génial. Prendre le vélo à la place de la voiture, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. Voilà.
Super. Et alors, quelle est ta vision, alors déjà pour YouCan, où est-ce que tu aimerais emmener ton entreprise, enfin votre entreprise,
ouais.
Et la vision pour un monde meilleur, tu vois, si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait?
Si je pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Je dirais la facilité à croire en des projets comme nous. C'est quelque chose que je changerais, parce que voilà, aujourd'hui, on grossit et on a des difficultés en fait en termes de subventions, en termes de tout ça, c'est très compliqué à aller chercher. Et voilà, c'est vraiment la facilité et que les mecs ils nous fassent faire moins de paperasse et qu'ils croient au projet plus facilement. Ça serait quelque chose que j'aimerais changer. Parce qu'on arrive avec un projet qui est bien, on veut embaucher des gens, mais derrière, c'est compliqué à mettre en place parce que on est en France et que les papiers, c'est la vie, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais changer.
Et, voilà. Et où est-ce que tu aimerais emmener YouCan?
YouCan, où c'est que j'aimerais l'emmener? Je sais pas, le plus loin possible. Le plus loin possible, franchement, j'en ai aucune idée. L'emmener, je sais pas, qu'on soit le leader français, ça serait trop bien. mais ça, j'y crois pas trop parce qu'on sera jamais le leader des marques en France, parce qu'il y a des monstres comme Nike et quoi qui vendent des milliers d'articles chaque année, donc ça me paraît compliqué, mais de proposer une alternative et espérer être présent dans le marché pendant longtemps, quoi.
Très bien. Et alors, quelles sont tes sources d'inspiration, donc soit pour progresser à titre personnel au quotidien, soit pour justement insuffler encore plus d'énergie et d'engagement dans la progression de YouCan?
Moi, mes sources d'inspiration, ça va être vraiment, enfin, c'est vraiment, on est basé sur l'environnement à 100%. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, mais comment je peux encore être meilleur que ce que j'ai fait avant, quoi? Et pour pouvoir justement se démarquer des autres, c'est être à fond là-dedans et toujours se guider par rapport à nos convictions. Et donc ça, c'est vraiment l'inspiration, c'est ça. Et puis on suit des mecs, beaucoup d'instagrammeurs et tout, qui sont à fond dans le yoga, le bien-être, la santé et tout. C'est des choses que moi, j'adore, quoi. Et je me dis que si on change pas tout de suite, on n'y arrivera peut-être pas. Donc c'est des choses qui m'inspirent, quoi.
Et des lectures en particulier, des blogs
Moi, je suis pas un grand lecteur, j'ai pas trop le temps de lire. mais non, c'est beaucoup, beaucoup suivre. Ouais, on suit pas mal de blogs et tout ça. J'en ai pas en tête là particulièrement, mais voilà. Après, quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, c'est comment elle s'appelle, l'ex Miss France Tillman, je crois. Mm-hmm. Qui fait énormément de choses là-dessus, et j'adore, quoi. J'adore tout ce qu'elle fait, et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien ce qu'elle fait, j'adore.
Vraiment super. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver YouCan Recycle?
Donc, YouCan, vous venez retrouver sur notre site internet, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et pour ceux qui connaissent après nos revendeurs, vous pouvez nous retrouver dans nos revendeurs, on est présent pas partout, mais on est présent quand même dans pas mal d'endroits, mais bon, ça faut retrouver la liste sur notre site internet et tout, hein. Toutes les infos qui vont bien, quoi.
Super. Eh bien, je crois que c'est l'heure du petit quiz final. J'espère que tu es prêt.
Vas-y.
Alors, je vais te poser une série assez courte de questions, avec deux choix possibles. Ouais. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible, soit par la réponse A, soit par la réponse B. Allez, tu es prêt?
Vas-y.
On y va. Pour te déplacer, Air France ou Blablacar?
Blablacar.
Pour vendre tes produits Yukan, Black Friday ou Make Friday Green Again?
Make Friday, direct.
Top, en plus, t'as compris mon accent, c'est génial.
Exactement.
C'était pas gagné. Pour te refroidir en été, acheter un climatiseur ou planter un arbre?
Planter un arbre sous la fenêtre, c'est quand même plus sympa.
Tu n'as rien dans ton frigo, McDo ou Too Good To Go?
Too Good To Go, on le fait de plus en plus, ça c'est vraiment top aussi. Super application.
Génial. Le lundi, t'es plutôt steak frites ou veggie Monday?
Ah, le lundi, je suis plutôt steak frites en fonction du week-end quand
Et enfin, je crois que tu as déjà partiellement répondu, mais avant de dormir, plutôt Netflix ou un bon livre?
Ah, ça c'est compliqué quand même, hein. Mais je dirais Netflix et avant de dormir, petit bouquin pour se reposer, quoi. Un peu
Très
des
bien,
deux.
excellent choix.
Un peu des deux.
Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup, Maxime, pour avoir partagé ton expérience et toutes tes convictions. Bravo pour votre engagement qui est le plus complet possible. Je crois qu'il n'y a pas un des aspects sur la ligne de production ou de commercialisation sur lesquels vous n'êtes pas engagé pour l'environnement. Et puis, merci pour ta spontanéité et les réponses à toutes tes questions.
Eh bien, merci à toi. En tout cas, c'était avec plaisir.
Super, je te dis, souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Au
Merci, au revoir, à bientôt.
revoir, Maxime.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter. Je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.